Ce matin, nous recevons Solène Chalvon-Fioriti, journaliste, dont le reportage « Vivre en pays taliban » a été diffusé sur Arte avant la prise de pouvoir par les fondamentalistes en Afghanistan. On écoute un extrait.
Après des mois de négociations, des hauts commandants talibans nous ont donné rendez-vous quelque part sur cette piste isolée. À nos côtés, un traducteur et une escorte armée.
Bonjour Solène Chalvon-Fioriti.
Bonjour.
Ça fait 10 ans maintenant que vous faites des allers-retours avec l'Afghanistan. Vous y avez même vécu. Vous y étiez encore il y a 3 semaines. Quand on arrive là-bas, désormais, quelle évolution est la plus visible, la plus flagrante ?
Alors je dirais que il y a 2 choses qui sautent aux yeux. D'abord, c'est la misère. Vous voyez des gens mendier partout, devant toutes les boulangeries de Kaboul. Parmi ces gens, il y a des enseignantes, il y a des ingénieurs, il y a des gens que vous ne voyez jamais mendier auparavant. Et évidemment, ce qui est frappant aussi, c'est qu'il n'y a plus d'uniforme, il n'y a plus de policiers, il n'y a plus. Alors il y a les policiers qui font le trafic, qui font la circulation. Eux ont été maintenus, ce sont d'ailleurs les seuls, enfin parmi les seuls. Et puis ce sont les talibans que vous voyez qui sont un peu en fait à Kaboul des Indiens dans la ville, parce qu'ils ne ressemblent pas, ils sont souvent par groupe de 2. Ils sont jeunes, enroulés de châles, avec des baskets montantes, une kalachnikov. Ils ne se mélangent pas vraiment avec les gens de Kaboul, et donc vous les voyez qui font un peu de sécurité, ou qui regardent ébahis des vitrines, puisque pour beaucoup d'entre eux, c'est le premier contact avec la ville. Donc je pense que c'est ça, oui, que je retiens comme image la plus frappante à l'arrivée.
Alors vous y faisiez allusion au tout début, l'Afghanistan est un pays exsangue. Aujourd'hui, le gel des avoirs imposé par les Américains a privé le pays de 8 milliards d'euros, l'économie s'est effondrée et il y a cette famine qui menace la moitié de la population, 23 millions d'Afghans. Les organisations humanitaires redoutent même qu'1 million d'enfants en meurent. Mais c'est absolument extraordinaire. On a du mal à y croire, à cet effondrement si rapide et si absolu.
Oui, vous avez raison de dire que c'est extraordinaire. D'ailleurs, les humanitaires eux-mêmes utilisent ce jargon. Les Nations Unies elles-mêmes disent que c'est la pire crise humanitaire actuelle. Il faut quand même imaginer que c'est plus de la moitié de la population qui risque d'être exposée à la famine et près de 97%, et encore une fois, j'utilise les chiffres de l'ONU, qui pourraient avoir faim au printemps prochain. Et le problème, c'est que même si une aide d'urgence est débloquée, il y a déjà eu 1 milliard qui a été voté il y a quelques semaines, même si cette aide arrive, en fait c'est une aide qui va être chirurgicale, qui va aider les gens à passer l'hiver, puisque là, au moment où on parle, il y a 1 mètre de neige dans certaines régions afghanes. Mais qu'est-ce qui va se passer après? De toute façon, l'État, il est complètement à l'arrêt. L'État ne fonctionne plus, les administrations sont vides, les gens ne sont pas payés. Les avoirs qui sont bloqués aux États-Unis, c'est à peu près 9,5 milliards de dollars. Pour faire fonctionner l'État afghan, il en faut 3 à 4. Donc comment imaginer, après l'ouverture, si vous voulez, après l'aide humanitaire qui va sans doute, on espère, aider le pays dans les prochains mois, qu'est-ce qui se passera ensuite? Et même, je voudrais juste dire par rapport justement à l'aide humanitaire, même cette aide humanitaire-là, il faut bien comprendre sur place pour les auditeurs que qu'est-ce que ça veut dire une aide humanitaire? Ça veut dire que vous avez de l'argent qui arrive. Comment l'argent arrive? Sachant que chaque dollar américain passe en ce moment sous la surveillance du Trésor public. Moi, j'ai pas pu payer mon loyer à Kaboul le mois dernier parce que normalement, j'envoie un mandat à mon propriétaire qui, là, n'a pas pu le toucher puisqu'en fait, c'est des dollars que j'envoie et donc l'argent a été bloqué dans ces flux bancaires. Donc l'argent n'arrive pas. Donc les ONG ne touchent pas cet argent, ne peuvent pas payer leurs gars sur place. Donc c'est une...
Non mais là, vous nous expliquez que c'est chronique d'une catastrophe humanitaire annoncée.
Alors non seulement annoncée, mais en plus totalement prévisible. Qu'est-ce qu'on imaginait en fait? Qu'est-ce qu'on imaginait? Les talibans imaginaient-ils à Doha une seconde que cet argent reviendrait alors qu'ils n'avaient pas partagé le pouvoir comme ils s'étaient engagés, plus ou moins d'ailleurs?
Oui, ils avaient vaguement parlé d'un gouvernement inclusif qui n'a jamais existé en fait.
Qui n'a jamais existé puisqu'il n'y a pas de minorité ethnique dans ce gouvernement, il n'y a pas de cadre de l'ancien gouvernement. On pouvait imaginer, s'il y avait eu des cadres de l'ancien gouvernement, des économistes, des gens qui connaissent leur dossier, on pouvait imaginer que les Américains seraient plus souples, puisque dans ce cas-là, puisque leur gros problème c'est que le moindre dollar atterrisse dans la poche des talibans, dans ce cas-là il y avait des moyens de le faire. Mais en fait, ces Afghans-là, les membres de l'ancien gouvernement n'ont pas du tout été inclus. Et puis quand même, les Américains sont aussi vraiment de mauvais perdants. Puisque aussi, comment avaient-ils pu imaginer, alors qu'ils ont participé à ce développement en premier chef, ils ont envoyé ces milliards, comment imaginaient-ils une seconde pour un pays dont le budget dépendait à 80% de cette aide au développement. En fait, comment imaginait-il la suite? Vous voyez, c'est évidemment les grands perdants quand même de ce, en fait, de ce jeu de dupes. Les grands perdants, ce sont les 38 millions d'Afghans qui sont contenus dans leur pays, qui ne peuvent pas en sortir. On a parlé de flux migratoires à un moment donné. Comment vous voulez qu'ils sortent, les Afghans? Il n'y a pas la mer. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que la Syrie, hein, juste pour donner un ordre d'idée aux auditeurs. Et ensuite, il y a l'Iran, effectivement. Mais de toute façon, après, ils sont bloqués en Turquie. Donc ça représente en fait des tout petits nombres.
Et aujourd'hui en Afghanistan, est-ce que les femmes, comme on le redoutait, sont devenues invisibles?
Alors, j'utiliserai pas ce mot, je dirais pas invisibles. Ce qui est sûr, c'est que, puisqu'elles sont visibles, d'abord, elles sont visibles, elles se rendent visibles, elles forcent la porte pour se rendre visibles. Elles le font quand elles le peuvent, dans des parcs, quand il fait trop froid, dans leur appartement, au moyen des réseaux sociaux, mais elles font monter leur voix. Il y a des manifestations et qui ne sont pas que l'œuvre, je le rappelle, ce que cherchent d'ailleurs à faire croire les talibans, qui ne sont pas que l'œuvre d'un petit groupe de féministes occidentalisées, pour reprendre les expressions qui leur sont chères, puisque ce sont des femmes en général qui ne parlent pas anglais, qui sont plutôt issues des classes moyennes, ne serait-ce que parce que celles qui parlaient anglais sont toutes parties.
Et est-ce que les femmes ont encore le droit de travailler? Certaines d'entre elles travaillent
alors,
encore.
Alors, les femmes n'ont pas le droit de travailler dans le secteur public, à de très très rares exceptions, c'est-à-dire, je compte ça quasiment sur les doigts d'une main pour ce qui est de certains ministères, par exemple l'Office des passeports. Elles ont le droit de travailler dans le secteur de la santé, donc ça, vous continuez de voir des infirmières, des sages-femmes, etc. Mais encore une fois, le problème, c'est que ce système hospitalier lui-même s'écroule complètement, et dans le privé, il y a une concurrence aux emplois tellement féroce, puisqu'il y a 70% de chômage, qu'elles se font dégager automatiquement par moment par leurs collègues ou par des patrons qui n'ont rien à voir avec le mouvement taliban. Et de toute façon, quand elles arrivent à rester, c'est dans des conditions de ségrégation de genre qui sont tellement strictes et tellement fermes qu'il y en a plein qui abandonnent.
Vous êtes souvent en Afghanistan, vous allez y retourner prochainement. Comment vous travaillez là-bas? Est-ce que c'est plus difficile qu'avant ou pas tant que ça, finalement?
Alors, c'est pas plus difficile qu'avant avec les talibans, puisque les talibans, ils ont l'habitude de travailler avec des journalistes étrangers. Ils l'ont fait à de très multiples reprises dans le passé. Maintenant, le problème, c'est que quand vous allez par moment, et comme ils ne sont pas du tout uniformisés, qu'ils n'ont pas eu le temps d'éduquer et de former leurs combattants sur le terrain, si vous voulez, parfois vous allez avoir rendez-vous avec un ministre qui, lui, va vous parler en anglais, qui va vous recevoir, qui va vous regarder dans les yeux, mais qui n'aura pas donné l'information aux hommes, aux combattants qui sont au checkpoint, et qui, eux, risquent de vous bloquer parce que votre visage n'est pas couvert ou que vous n'avez pas de chaperon ou que sais-je. Donc, ce n'est pas un mouvement uniformisé, mais ils ne sont pas violents du tout à l'égard de la presse étrangère. Au contraire, ils ont besoin qu'on relaie la crise humanitaire. En revanche, ce qui rend tout simplement le travail très difficile, c'est que les conditions matérielles sont épouvantables et qu'il n'y a pas d'essence et qu'il n'y a pas d'électricité. Donc, évidemment, nous, on fait de l'image en plus. Donc, pour travailler, ça rend effectivement ça beaucoup plus compliqué.
Donc c'est un chaos total, une véritable désorganisation absolue de ce pays que vous nous décrivez. Merci d'être venu nous parler de l'Afghanistan. Merci Solène Chalvon-Fioriti. Je rappelle que vous êtes grand reporter à France 24.